Donc aujourd'hui, on va continuer un peu notre série sur l'Église. Hein, on a commencé une série aussi sur l'impact de l'Église, comment être une Église selon le cœur de Dieu. Nous allons voir comment que Jésus aime l'Église, ce qu'il a fait pour elle, pour qu'elle prenne place dans le monde. Comment, justement, Jésus chérit cette Église et comment elle désire qu'elle puisse se développer pour être une lumière dans ce monde. Donc, pour cela, nous allons nous appuyer sur les lettres que l'apôtre Jean a écrit aux sept églises dans les premiers chapitres de l'Apocalypse. On va voir justement à travers ces lettres comment que ces recommandations ou ces avertissements peuvent nous enseigner en tant que personne et en tant qu'église. On a besoin de comprendre que ces lettres ont été écrites il y a peut-être plus de 2000 ans, mais comment qu'aujourd'hui elles peuvent encore nous encourager, nous exhorter à être un véritable témoin de Jésus-Christ. Ces différents points, justement mentionnés, peuvent se trouver encore aujourd'hui dans chacun de ces églises, à différentes périodes. Mais l'Esprit de Dieu a choisi cette église et cette situation différente pour nous montrer comment que l'église peut passer à travers ces périodes et qu'est-ce que nous devons faire pour rester et être une église pure, sans tache, sans défaut, devant le Seigneur. Le commentateur biblique MacDonald disait: l'Apocalypse constitue le point culminant de la Bible. Elle nous révèle l'avenir de toutes choses. Même une lecture superficielle devrait constituer pour les incroyants une sérieuse incitation à la repentance et pour le peuple de Dieu un puissant encouragement à persévérer. Donc on sait que même les incroyants, ceux qui ne croient pas forcément à la Bible, ils connaissent l'Apocalypse, ils sont intéressés à savoir qu'est-ce que c'est l'avenir. Où est-ce que le monde va? Et c'est vrai que devant tout le bouleversement que nous vivons actuellement, à travers les guerres et comme ça, on voit que nous sommes dans les temps de la fin. Et les gens se posent des questions, Et voilà pourquoi que nous aussi, en tant qu'Église, nous devons aussi être aussi selon le caractère de Dieu, selon aussi ce que Dieu désire aussi pour son Église. Donc on sait que c'est l'apôtre Jean qui a écrit ce dernier livre de la Bible. Il a été justement condamné à cause de sa foi et il avait été déporté dans l'île de Patmos, où il écrit justement l'Apocalypse, qui veut dire « révélation de la part de Dieu ». Donc ces révélations, ce n'est pas pour faire du sensationnalisme, mais comme il est dit dans le chapitre 1, verset 3, « Heureux celui qui donne lecture des paroles de cette prophétie, et ceux qui les entendent et qui obéissent à ce qui est écrit dans ce livre, car le temps est proche. » Imaginez, il y a 2000 ans, il disait « le temps est proche », encore aujourd'hui, dans tout ce qu'on voit, même en Israël, en Palestine, on voit que le temps de la fin est proche. Le Seigneur veut préparer son Église afin qu'elle puisse être pure et sans défaut, comme on a dit. Parce que lorsqu'il viendra la rechercher, comme chacun de nous, nous sommes l'Église. Nous sommes le corps du Christ. L'Église, ce n'est pas juste un bâtiment, ce n'est pas juste impersonnel. Donc, lorsqu'il nous parle à l'Église, il parle directement à chacun de nous. Donc, la dernière fois, nous avons vu la première lettre qui s'adresse à l'Église d'Éphèse. Donc, on sait que cette ville était à la jonction des voies commerciales qui étaient entre l'Orient et Rome, qui est une ville qui était assez prospère et qui avait le plus gros port de l'Asie mineure. On a vu dans le verset 2, dans le chapitre 2, comment que le Seigneur donne des compliments à cette église d'Éphèse. Il va dire, premièrement, c'est une église travaillante, parce qu'elle est engagée dans l'œuvre de Dieu. Elle produisait des fruits. Une église travaillante est une église justement qui travaille pour Dieu, qui donne des résultats, qui donne des fruits. Ici, il n'est pas parlé de croissance numérique, mais de croissance spirituelle. Une église qui ne se relâche pas devant les défis, mais qui continue d'avancer dans la vérité. On voit aussi qu'il parlait d'une église persévérante. Elle persévère malgré toutes les souffrances. Elle avait dû être persécutée. Elle a dû connaître des conflits, vivre des scandales. Ce qui montre que cette église a vécu des moments difficiles. Elle a eu des persécutions, elle a travaillé dans la persévérance. On voit aussi que c'est une église disciplinée, qui exerce la discipline, parce qu'elle désire se garder pure. Elle ne cherche pas à plaire à tout le monde, à être acceptée par la majorité. Donc une église disciplinée est capable de discerner s'il y a des personnes qui apportent des paroles qui ne sont pas dans la vérité de Dieu. Elle est capable de discerner les personnes qui font le mal ou qui entraînent d'autres personnes dans le péché. Et nous voyons aussi comme quatrième point, une église instruite. Une église qui est bien équipée dans la doctrine, solide dans la foi. Elle ne donnait pas son assentiment à n'importe qui se disait de Dieu. Au contraire, justement, à travers la parole de Dieu, à travers le discernement, elle était capable de discerner ceux qui étaient des menteurs. Elle les démasquait, elle les condamnait. Prochain diacre, quand nous regardons justement à cette église d'Éphèse, nous voyons qu'elle a toutes les bonnes qualités d'une église qui avance, une église qui a un impact, une église qui est vraiment dans les voies de Dieu. Mais par la suite, on voit qu'il y a un reproche, que l'Esprit dit, tu as perdu ton premier amour. Tu as perdu ton premier amour. Dans le sens que toutes ces qualités que cette église avait développées, possédait, elle les avait perdues. Elle a perdu l'essentiel, le but essentiel pourquoi elle était une église, c'est-à-dire de le faire dans l'amour. Elle faisait toutes ces belles choses sans amour. Elle travaillait, mais sans amour. Elle faisait beaucoup de bonnes œuvres, mais sans amour. Elle était persévérante, mais sans amour. Elle était disciplinée, tellement qu'elle avait perdu cet amour pour ceux qui étaient dans l'erreur. Au lieu de pardonner, elle rejetait. Elle est devenue une église exigeante et religieuse, où les règles sont plus importantes que l'amour. Si nous avons tout ce qu'il faut pour être un bon chrétien, une bonne personne, mais qu'il manque cet amour de Dieu, alors on n'est rien. Tous nos gestes, nos paroles, notre témoignage doivent être empreints justement de cet amour réel de Dieu, vers Dieu et aussi les uns envers les autres. Alors, prochain diacre, que va dire l'Église à cette Église? On le voit dans le verset 5. Il lui dit, « Allons, rappelle-toi d'où tu es tombé, change et reviens à ta première conduite. Sinon, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place si tu ne changes pas. » Il est dit de se rappeler d'où elle est tombée, c'est-à-dire de regarder en arrière à quel moment cette Église a perdu cet amour. De se rappeler de comment elle était dans le début et de voir ce qui s'est passé. Pour que cet amour ne soit plus présent. Dans notre propre vie, on doit aussi régulièrement nous arrêter de regarder en arrière, afin de voir si réellement nous avons perdu ce premier amour de Dieu. Est-ce que je suis encore sur le bon chemin? Pourquoi que mon amour pour Dieu s'est refroidi? Pourquoi peut-être que je vis maintenant dans le doute, dans le désespoir? Avant que j'étais dans l'ardeur, j'étais dans la passion pour le Seigneur. L'ordre est très clair dans ce verset. Change et reviens. Si nous perdons notre amour, si nous perdons notre véritable relation avec Dieu, alors il vaut mieux s'arrêter et voir à quel moment que nous sommes tombés pour pouvoir se repentir et changer vraiment de situation, changer de comportement. Alors ouvrons notre Bible maintenant. Dans Apocalypse chapitre 2, versets 8 à 11, on va voir la deuxième église, Smyrne. Qu'est-ce que l'Esprit veut dire à cette église? Dans Apocalypse chapitre 2, versets 8 à 11. Voici ce qu'il dit, verset 8. À l'ange de l'église de Smyrne écrit, voici ce que dit celui qui est le premier et le dernier, celui qui était mort et qui est à nouveau vivant. Je connais ta détresse et ta pauvreté, et pourtant tu es riche. Je sais les calomnies de ceux qui te disent juifs, mais qui ne le sont pas. C'est une synagogue de Satan. N'aie pas peur des souffrances qui t'attendent. Voici le diable va jeter plusieurs d'entre vous en prison pour vous tenter et vous faire connaître 10 jours de détresse. Sois fidèle jusqu'à la mort et je te donnerai la vie comme prix de la victoire. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Au vainqueur, la seconde mort ne lui causera pas de mal. Regardons premièrement justement où est située cette ville, qu'est-ce que cette ville. Donc c'est une ville qui était proche d'Éphèse, à peu près une quarantaine de kilomètres. C'est la troisième plus grande ville de la Turquie, une des plus prospères de l'Asie mineure. On dit même que c'était une des plus belles parce qu'elle portait le titre de couronne de l'Asie, tellement à cause de sa beauté. Donc Smyrne veut dire myrrhe. On sait la substance qui est utilisée comme parfum. Souvent pour embaumer les morts. Elle était justement en rôle, elle était dans un pôle scientifique et médical. Voilà pourquoi ce sont son surnom de myrrhe. Smyrne s'était toujours placé du côté des vainqueurs pendant les conquêtes romaines. Et sa loyauté justement indéfectible envers Rome débouchait vraiment sur une pratique vraiment fervente du culte de l'empereur. On voyait dans cette ville un désir profond adorer l'empereur romain. Polycarpe, qui était le pasteur d'église de cette ville, fut brûlé vif à l'âge de 86 ans pour avoir refusé de participer justement au culte rendu à l'empereur. Dans cette ville, il y avait de nombreux juifs, une grande communauté qui était nombreuse et puissante. Et on peut voir, on a pu en entendre lire comment elle a persécuté les chrétiens. Maintenant, regardons justement l'Église. Donc, au beau milieu de cette grande ville, existait un petit groupe de personnes en amour avec Jésus. On ne sait pas à quel moment cette Église a été fondée. On pense peut-être que c'est une Église fille de d'Éphèse. Donc, quelques chrétiens d'Éphèse qui sont partis à Smyrne et qui ont développé, qui ont implanté cette Église. On dit que cette église est le symbole de toutes les églises des croyants persécutés, parce qu'on voit qu'à travers ces écrits, comment que l'Esprit va dire l'importance que cette église va vivre des persécutions. Ce qui est intéressant de cette lettre, c'est l'introduction au verset 8. « Voici ce que dit celui qui est le premier et le dernier, celui qui était mort et qui est à nouveau vivant. » Donc par ces paroles, on reconnaît qu'il est parlé de Jésus, celui qui est mort sur la croix et qui est revenu à la vie le troisième jour. Donc, dès le premier verset, il est rappelé que celui qui est mort, c'est-à-dire Jésus, a été vainqueur de la mort, a été vainqueur de la tribulation, a été vainqueur de la persécution. Par ses paroles, il est donné un encouragement à cette Église qui passe par des persécutions. Mais il est dit aussi qu'il est le premier et le dernier, c'est-à-dire l'alpha et l'oméga. Ces chrétiens avaient besoin d'entendre, de réentendre que Jésus, celui en qui ils ont mis toute leur confiance, est le premier et le dernier, c'est-à-dire le maître de l'histoire. Le premier dans le sens qu'il a tout créé. Ce qui veut dire qu'il nous a fait aussi nous, et qu'il sait qui nous sommes, ce que nous vivons en tant qu'humains. Le dernier dans le sens que c'est par lui tout va s'accomplir, et qu'il aura le dernier mot sur tout, même notre propre vie. C'est-à-dire que rien ne lui échappe, même par notre propre mort. Tout ce qui arrive dans notre vie, il le sait et il a un contrôle dessus. Donc maintenant, on arrive justement dans le corps de la lettre. Et c'est là que nous voyons la différence entre les églises. Smyrne est la seule église avec Philadelphie qui ne reçoit pas de reproches ou de recommandations pour faire un changement. On aimerait vraiment qu'on puisse ressembler à de telles églises. Hein? Que si Jésus venait ce matin parmi nous, il puisse dire la même chose qu'il a dit à Smyrne et qu'il a dit à Philadelphie. Donc au début du verset 9, il est dit, « Je connais ta détresse et ta pauvreté, et pourtant tu es riche. » Qu'est-ce que ça veut dire pour nous aujourd'hui? Ce bout de phrase ne veut pas dire de richesse matérielle, mais de richesse spirituelle. Dans le sens que nous pouvons peut-être ne pas être une église ou quelqu'un qui est important, qui est visible devant les autres, mais qui est riche dans l'âme. Dans la façon que nous suivons Christ, dans la persévérance que nous mettons à être juste, même dans les plus petites choses. C'est ça la richesse qui est parlée ici. L'église de Smyrne était petite, sans éclat, sans apparence par rapport à celle peut-être d'Éphèse que nous avons vue la dernière fois. Mais elle était riche parce qu'elle a gardé cette flamme pour le Seigneur. Tellement intacte que Jésus n'a rien à lui reprocher. Pour nous-mêmes aussi, on pourrait dire que l'église Carrefour Saint-Henri n'a pas un grand éclat, n'a pas beaucoup d'impact. Mais le Seigneur ne regarde pas à la beauté de l'église, ne regarde pas au bâtiment, ne regarde pas tout ce que nous faisons, mais il regarde à l'intérieur, il regarde au cœur, à la fidélité, à ce que nous sommes en tant que chrétiens. Jésus va dire à cette église que ceux qui les accusent, ceux qui se disent de Dieu, ceux qui disent juifs, enfants d'Abraham, mais qu'en réalité, ils sont fils de Satan. Ce sont ces personnes qui ont rejeté Jésus, le Fils de Dieu, par conséquent, Dieu lui-même. Pour un juif, entendre qu'il est un fils de Satan et non de Dieu, c'est toute une insulte. Mais c'est la même chose qui va arriver aujourd'hui pour ceux qui ne croient pas en Jésus-Christ. Si tu fais simplement de croire en Jésus, comme la plupart des personnes autour de nous, comme au Québec, ça ne va pas suffire pour être sauvé. Il y a beaucoup de gens qui croient en Dieu, mais ils ne croient pas en Jésus. Parce que croire, c'est une chose. Mais la grande différence avec Jésus, c'est que oui, on croit que Jésus, le Fils de Dieu, est venu sur la terre pour une mission, pour nous racheter, mais qu'il est mort sur la croix et qu'il est ressuscité le troisième jour. Mais on ne doit pas simplement croire à cela, même à ces choses, mais on doit l'accepter. Est-ce que je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu? Est-ce que je l'ai accepté dans ma vie? Est-ce que Jésus-Christ fait une différence dans ma vie? Voilà la grande différence entre croire et vraiment agir. Nous devons chercher cette richesse intérieure dans la persévérance devant la tribulation, afin que nous puissions avoir les bons mots que Jésus a eus aussi pour cette Église. Donc on voit justement que cette Église est fidèle à cause de quoi? De différents points. Premièrement, on voit qu'elle est fidèle à cause de la persécution, de la tribulation qu'elle vivait. Cette Église vivait de la part de nombreux juifs, comme on l'a dit, dans la ville, des injures, une persécution terrible. Tellement que certains ont terminé en prison. C'est difficile de concevoir, pour nous, même aussi aujourd'hui au Québec, être capable de dire, ben, je vais souffrir pour ma foi, puis je vais terminer ma vie ou je vais être en prison. On le voit autour de nous, tellement de chrétiens dans différents pays, au Moyen-Orient, dans différents pays, qui sont en prison, qui sont persécutés, qui sont injuriés, qui sont séparés de leur famille à cause de leur foi. Mais on voit dans ces pays comment que l'Église grandit. Ça peut paraître paradoxal de dire, dans les pays où il y a le plus de persécution, c'est là que l'Église grandit. Pourquoi? Parce que c'est sûr qu'en tant que chrétien, si tu sais que tu fais face à la persécution, tu vas réellement croire que Dieu va être en puissance pour toi. Tu vas réellement dire, ben, Seigneur, si je suis prêt d'aller par la foi avec toi pour être persécuté, je veux, Seigneur, que tu puisses m'aider à avancer. On voit que l'église de Smyrne aussi est une église sans hypocrisie. Lorsqu'on est justement persécuté dans notre foi, c'est un peu comme un feu qui brûle les scories pour nous faire sortir ce qui est pur. Comme l'or, on doit la chauffer à une très grande température pour enlever toutes les scories, tous les déchets, pour qu'on puisse garder juste l'or. La persécution est un feu qui brûle le péché dans l'église. Lorsqu'on est persécuté, lorsqu'on est injurié, lorsqu'on est maltraité, pas simplement juste physiquement, mais aussi peut-être par d'autres personnes, rejeté par nos familles, ça nous pousse à aller chercher encore plus le réconfort dans les bras de notre Seigneur. Et c'est à ce moment-là qu'on veut avancer. C'est là de plus en plus qu'on veut laisser le péché de côté pour avancer d'une façon juste devant le Seigneur. Personne ne va se proclamer chrétien et risquer sa vie juste pour avoir l'apparence d'un chrétien. Et il est dit dans le verset 10 qu'il est dit qu'il y aura une tribulation de 10 jours. Est-ce que ça veut dire 10 jours réels? Selon les biblistes, on dit que c'est une courte période, en temps limité. Donc Jésus va dire que certains vont être mis en prison à cause de leur foi pour un certain temps. Mais regardez la promesse qui se passe dans le verset 10, à la fin du verset 10. Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la vie comme prix de ta victoire. Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la vie comme prix de ta victoire. N'est-ce pas ça quand de nous qu'on aimerait avoir la couronne de vie, c'est-à-dire d'être sauvé pour l'éternité avec Jésus-Christ? Mais ça implique de rester fidèle, malgré les défis, les persécutions, de rester fidèle dans la persévérance, même si des fois, peut-être, on ne voit pas forcément Dieu agir dans notre vie. En ce moment, je suis en train de lire le livre de Job. Et c'est vrai que le livre de Job, quand on voit cet homme qui était béni par le Seigneur, qu'en du jour au lendemain, il perd tous ses biens, sa richesse, il perd même ses enfants. En plus, il est malade, une maladie tellement qu'il dérange. Mais il reste fidèle à Dieu, même quand sa femme va lui dire de maudire Dieu. C'est vrai que Job va dire devant Dieu, mais je suis resté juste. Il va commencer de se justifier devant Dieu. Dieu va le reprendre, mais il est resté fidèle. Peut-être en différence de ses trois amis qui sont venus le conseiller. Cette espérance de la couronne de vie nous est donnée ce matin à chacun de nous. Sois fidèle dans l'espérance que je t'ai donnée, nous dit Jésus ce matin. Oui, c'est vrai que nous allons vivre des temps difficiles. Même si on t'injure, même si on te rejette, si on te maltraite, reste fidèle. C'est vrai que si nous acceptons cette condition de souffrir pour Christ, alors cette promesse de couronne de vie nous est aussi donnée. Mais avant de recevoir cette couronne de vie éternelle, il a dit que Jésus sera avec nous, même dans les temps d'épreuve et de souffrance. Comme il a dit cette église, une période de 10 jours, un certain temps, mais à un moment donné, tu vas être sauvé, transformé. Comme avec Job, c'était un certain temps. Et Dieu l'a restauré d'une façon incroyable, même plus qu'avant. N'est-ce pas soulageant de savoir que celui qui est en nous, à qui nous mettons notre confiance, ne va pas seulement nous attendre à la fin de notre vie pour nous accueillir, pour nous donner la récompense, mais qui va nous accompagner tout au long de notre vie sur terre, et même dans les temps les plus difficiles. C'est pourquoi Jésus n'a pas de reproche à faire à cette Église. Lorsque nous sommes éprouvés par la vie, par les tribulations et les persécutions, alors c'est là ce moment-là que nous ne pouvons pas être hésitants pour Jésus et que nous allons recevoir cette couronne de vie. Prochain diable. Lorsque nous avons accepté Jésus dans notre cœur, alors on a eu cette promesse du salut de notre âme, de la vie éternelle. Même si Jésus nous rappelle dans ce verset, nous rappelle d'être fidèles, ça veut dire que certains ne le sont pas. Et c'est vrai qu'il y a des chrétiens qui ont lâché la foi ou abandonné Dieu en cours de route, devant les souffrances, devant la persécution, ils ont préféré de retourner en arrière. Ils ont laissé cette espérance s'évanouir dans leur vie. Ils sont éloignés tranquillement des fois même du Seigneur. Alors, est-ce que ça veut dire que nous pouvons perdre notre salut? En tant que église méthodiste, nous croyons que Dieu nous a rachetés par grande grâce. Mais Dieu nous demande de faire un travail. Dieu ne nous demande pas simplement de dire « Oui, je crois que Dieu m'a sauvé, je suis sauvé pour l'éternité, puis je reste sur place, puis j'attends jusqu'à ce qu'il nous revienne. » On doit travailler, parce que si on ne travaille pas, on reste sur place, l'ennemi va nous faire trébucher. L'ennemi va petit à petit nous enlever cette espérance de Jésus-Christ. Le Seigneur veut nous dire ce matin que nous sommes sauvés par grâce uniquement par la grande bonté de sa miséricorde. Ce n'est pas à cause de nos œuvres, ce n'est pas à cause de tout le travail qu'on fait pour le Seigneur. Ce n'est pas à cause que nous sommes supérieurs aux autres, mais uniquement par sa grande grâce. Mais cette grâce, on peut la perdre si on ne suit pas Jésus d'une manière juste et persévérante. Alors, qu'est-ce qui est le plus important? Est-ce que c'est de réussir aujourd'hui sur cette terre ou être déclaré juste à la fin de notre vie? Alors, ouvrons notre Bible dans Philippiens chapitre 3, versets 12 à 14. Philippiens chapitre 3, versets 12 à 14, où justement Paul va parler de son expérience, de comment il continue de travailler pour son salut. Philippiens, chapitre 3, versets 12 et 14, dit « Non, certes, je ne suis pas encore parvenu au but. Je n'ai pas atteint la perfection, mais je continue à courir pour tâcher de saisir le prix. Car Jésus-Christ s'est saisi de moi. Non, frère, pour moi, je n'estime pas avoir saisi le prix. Mais je fais une seule chose. Oublions ce qui est derrière moi et tendons de toute mon énergie vers ce qui est devant moi. Je poursuis ma course vers le but pour remporter le prix attaché à l'appel que Dieu nous a adressé du haut du ciel dans l'union avec Jésus-Christ. » Paul ne s'arrête pas à ce que le Seigneur lui a donné le salut de son âme pour se reposer et attendre que le Seigneur vienne le chercher. Durant toute sa vie, il court vers ce but en restant fidèle. Paul va dire qu'il n'a pas atteint la perfection, mais il continue de courir. Il dit qu'il oublie ce qui est en arrière, même les bénédictions, même les grâces de Dieu. Toutes les victoires qu'il a eues, il est de côté pour pouvoir se centrer sur l'avant, ce qui est devant lui. Trop souvent, des fois, nous avons des grâces, des victoires du Seigneur, puis on s'appuie là-dessus. On vit des belles choses, des délivrances du Seigneur, puis on s'appuie là-dessus, puis on reste là. Mais ce texte nous encourage à continuer la course. Nous n'avons pas atteint la perfection. Seigneur, j'ai encore besoin de courir, j'ai encore besoin de grandir, j'ai besoin d'être encore changé. J'ai besoin de rester humble devant toi pour me repentir, pour pouvoir continuer cette course, pour être fidèle jusqu'au bout. Alors, pour terminer, le dernier verset nous dit d'écouter avec des oreilles attentives. Dans le sens que c'est un avertissement pour nous, en tant qu'Église et en tant que chrétien, en tant que personne. La suite de ce verset nous dit que le vainqueur ne sera point touché par la seconde mort, où la seconde mort ne causera pas de mal. qui veut dire que celui qui est fidèle jusqu'à la première mort, c'est-à-dire notre mort physique, ne connaîtra pas la seconde mort, celle du jugement, du feu éternel pour ceux qui n'auront pas cru en Jésus-Christ. Ce matin, cette lettre, c'est vrai, est adressée pour toutes les églises qui vivent des véritables persécutions, tout au long de l'histoire de l'Église dans ces 2000 dernières années. Mais cette lettre veut aussi s'adresser à nous, pour nous dire que nous devons rester fidèles, quel que soit le prix à payer, que notre salut éternel est plus important que notre vie terrestre. Cela est plus important, entre guillemets, d'être pauvre, au sens de l'éclat de la vie, de notre être intérieur. C'est lorsque nous serons justement pauvres extérieurement, qu'on ne fait pas trop éclat de notre vie, mais que nous allons être riches à l'intérieur. Une richesse parce que le Seigneur nous continue de nous transformer. On continue d'avancer avec le Seigneur et qu'il va nous donner la véritable récompense, la vie éternelle. Cette lettre à l'église de Smyrne nous encourage à persévérer devant les défis de la vie, devant les persécutions à cause de notre foi. La persécution ici au Québec, peut-être, elle n'est pas physique, mais elle peut se faire au travail. On peut être rejeté, on peut perdre notre travail à cause de notre foi. On peut être rejeté par une personne de notre entourage. On peut recevoir des critiques, des injures. On peut être même envoyé devant le tribunal pour des choses qui n'est pas juste. Mais il nous est encouragé à rester fidèles jusqu'au bout. Parce que Jésus est fidèle à sa promesse qu'il nous donnera la couronne de vie à celui qui restera fidèle. Alors simplement, courbons notre tête. J'aimerais inviter Bob à venir sur scène. Et j'aimerais simplement qu'on prenne un petit temps, ce matin, en lisant cette lettre, en regardant ce que le Seigneur veut nous dire à travers cette lettre, pour savoir si on a besoin peut-être de faire un pas de plus vers le Seigneur. Ne pas regarder en arrière. Oui, si on a des choses qu'on a besoin de pardonner, si on a des choses qu'on a besoin de se repentir, oui, demandez pardon à Dieu. Parce que souvent, justement, ces péchés non avoués, ces choses qui nous traînent, qu'on traîne comme un boulet, va nous empêcher d'avancer réellement, de porter du fruit pour le Seigneur. Alors oui, c'est bon de pouvoir le mettre au pied de la croix. Mais peut-être aussi dans notre marche chrétienne, ça fait des années que nous sommes avec le Seigneur. On peut vivre une certaine routine. On peut dire, oui, on vient régulièrement à l'église, on fait les choses que le Seigneur veut, on lit sa parole, on prie. Comme l'église d'Éphèse, peut-être on a perdu notre premier amour. Alors c'est important. Comme Paul dit, je ne regarde pas ce qu'il y a en arrière. Je regarde en avant. Dire Seigneur, je veux maintenant ce matin encore te dire et te redire toute ma confiance que j'ai en toi. Mon désir de te rester fidèle, de persévérer. Peut-être que vous êtes dans un temps de persécution. Un temps où vous voyez qu'il y a beaucoup de choses qui se passent autour de nous, il y a la souffrance physique à travers la maladie, la souffrance peut-être à travers une autre personne, une autre circonstance. Vous ne savez pas très bien comment il faut faire, à qui, vers qui se tourner. Ce matin, le Seigneur dit, viens simplement dans mes bras. Je veux te donner la couronne de vie, je veux que tu restes fidèle. Persévère, persévère jusqu'au bout. Oui? La vie chrétienne, c'est une lutte jusqu'au dernier jour. Jusqu'au dernier jour, il faudra lutter. Alors j'aimerais simplement que, si le Saint-Esprit vous dit quelque chose, justement, que vous avez peut-être perdu votre premier amour, que vous avez besoin de revenir réellement dans les bras du Seigneur, si peut-être vous vous contentez d'une vie, je pourrais dire, normale avec le Seigneur, tranquille, dans la routine, puis là, vous sentez que le Seigneur dit, non, non, je veux que tu persévères, je veux que tu ailles plus en avant, je veux que tu portes du fruit, je veux que tu arrives à cette perfection, à cette transformation. Peut-être que vous vivez justement des persécutions, des souffrances. J'aimerais simplement vous inviter à venir devant et on va prier pour vous. Le fait de vous lever, le fait de venir, démontre à Christ que vous voulez faire ce pas. Démontre aussi aux autres que vous désirez avoir aussi leur soutien dans la prière. C'est important. On a tous besoin à un moment donné d'encouragement. On a tous besoin à un moment donné d'être continué, d'être transformé par le Seigneur. Alors simplement, vous pouvez vous lever, vous pouvez venir devant. Et on va simplement prier pour vous. Afin que Dieu vous donne ce courage, vous donne cette force de persévérer jusqu'au bout. Vous donne la délivrance devant peut-être les défis que vous vivez. Vous donne le courage de revenir dans ses bras d'amour. Seigneur, on te remercie pour ce rappel à travers cette lettre que tu veux nous donner cette couronne de vie. Merci Seigneur pour cette promesse qui est d'actualité encore pour chacun de nous aujourd'hui. Pour tous ceux, Seigneur, qui jusqu'à maintenant ont été fidèles jusqu'au bout et qui sont venus, qui sont allés te rejoindre. Seigneur, aide-nous encore à persévérer. Aide-nous, comme Paul le dit, Seigneur, à continuer à courir pour aller vers cette perfection. Aide-nous, Seigneur, à toujours, Seigneur, saisir de plus en plus vers tes yeux de ta grâce, ta force pour pouvoir continuer de marcher avec toi. Oui, Seigneur, que nous puissions regarder que nous sommes encore pauvres intérieurement, mais on est riche à l'intérieur. Riche de ta bonté, riche de ta plénitude, riche de ta joie, de ta paix que tu nous donnes. Alors, Seigneur, je te prie pour chaque personne ici présente, que ce soit sur Zoom, sur YouTube, afin que, Seigneur, cette grâce continue de les encourager à avancer avec toi. Aide-les à persévérer malgré les tribulations, les difficultés, malgré les souffrances. Aide-les à rester fidèles jusqu'au bout. Et qu'on puisse tous entendre, bon et serviteur, bon et fidèle serviteur, bon et fidèle servante, rentre dans le repos. Un jour, nous serons avec toi dans le repos, loin de toutes ces souffrances qu'on aura vécues sur cette terre. Mais en attendant ce jour, Seigneur, on veut pouvoir continuer de marcher de façon juste et digne devant toi. Alors je te prie, Seigneur, chacun de nous, oui, que cette grâce, cette paix, cette bénédiction, Seigneur, repose sur nous aujourd'hui, demain et jusqu'à ton retour, et que nous soyons dans la joie de t'appartenir. Louange à toi seul, louange à toi, gloire à ton nom, Seigneur Jésus. Amen. Amen.